Arnaud Akodjenou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un accord de paix définitif est prévu le 5 août. Est-ce que vous y croyez?
Accord définitif, je ne crois pas. Tout a été fait pour que cela le soit, mais j'en doute. J'en doute pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a encore des points litigieux. Il y a eu des progrès. Des progrès en termes d'arrangements sécuritaires. Nous avons moins de violence sur le terrain, mais à part le partage des positions tant au niveau du cabinet qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui reste encore à définir au niveau des États, parce que vous avez le plan national et vous avez les États. C'est là où le bât blesse.
Est-ce que ces négociations, cet accord provisoire, vous donnent l'impression qu'on a des gens qui sont en train de se partager un gâteau?
Je vous laisse cette expression, elle est forte, mais nous avons affaire à une situation inédite. Les hommes politiques mettent de côté la souffrance du moment, tout ce qui touche aux hommes et femmes qui, après des décades de souffrance, de ce qu'on appelait une guerre de libération, et qui se retrouvent encore ou réfugiés, ou personnes déplacées internes, ou totalement marginalisées dans un processus qui les concerne. On ne peut pas diriger un pays sans l'implication des hommes et des femmes, parce que leur avis compte et leur avis comptera. Je prends le cas des réfugiés. Comment pourrions-nous un jour rétablir le processus que nous appelons retour, rapatriement volontaire, sans que ces hommes et ces femmes aient eu leur mot dans ce que les hommes politiques auront conçu pour eux? Comment pourrions-nous leur demander de faire confiance? Et sans eux, il n'y aura pas d'État.
Le texte prévoit un partage du pouvoir entre Salva Kiir, le président, et son opposant Riek Machar, qui redeviendrait premier vice-président. C'est la même configuration qu'en 2013, lorsque la guerre a éclaté. Est-ce que ça peut marcher aujourd'hui?
C'est même encore plus compliqué parce que à cette configuration, il faut ajouter la présence d'un autre parti, une alliance. Il faut ajouter ce qu'on appelle les détenus lors de la guerre de libération. Et il faut également ajouter les petits partis d'opposition. Et c'est en cela d'ailleurs que nous avons aujourd'hui des blocages. Vous savez qu'il y aura, en plus du président, 5 vice-présidents. Pour l'Assemblée nationale, nous passerons de 330 à 550. Je connais bien l'Assemblée nationale du Sud-Soudan, j'y ai été à plusieurs reprises. Rien que le bâtiment a été conçu pour 150. Mais là où le problème devient plus compliqué, c'est au niveau des États. Il y a 10 États au Sud-Soudan. Le gouvernement de transition en demande 32, certainement pour en répartir le plus possible à des hommes politiques ici et là. Ça suppose qu'il y aura 32 gouverneurs, avec 32 gouvernorats, 550 députés. Ça suppose qu'il y a des députés, des suppléants et toute une équipe. C'est un coût très élevé. Et j'ai beaucoup de peine à croire que cela marchera. Alors que dans le même temps, le débit en termes du pétrole n'atteint pas les niveaux espérés par les uns et les autres.
Où en est-on au niveau du cessez-le-feu, signé il y a un peu plus d'un mois, violé quelques heures après? Est-ce qu'il tient toujours?
Il tient, il a été certes violé, et il continue de l'être ici et là, mais il tient en gros et cela se voit. Les pays voisins reçoivent moins de réfugiés.
Justement, comment décririez-vous la situation humanitaire actuelle?
Elle est dramatique. Vous avez des pays tels que l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan, voire le Kenya, qui reçoivent un nombre de réfugiés très important. Et dans le même temps, le haut-commissaire qui a lancé un appel d'1,5 milliard n'a pas jusqu'à aujourd'hui les moyens de son programme à cause des contributions faibles. Et ça a un impact énorme parce que la plupart de ces réfugiés vivent dans les communautés nationales et les infrastructures n'ont pas été faites pour cela. Le drame, c'est que plus de 63% des réfugiés sont des enfants qui doivent aller à l'école. Et il y a des enfants qui n'ont pas vu un tableau noir depuis 2 voire 3 ans.
Justement, où en est-on au niveau de cet appel de fonds, 1,5 milliard de dollars jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce qui a été recueilli pour l'instant?
Non, très peu. Nous n'avons reçu que 12%. Les raisons sont multiples. Certes, il y a beaucoup d'autres crises, mais la particularité de la crise sud-soudanaise, c'est qu'on ne va pas l'appeler une crise oubliée. Elle n'est pas oubliée parce qu'elle n'est pas connue. À travers mes contacts, j'ai réalisé que cette crise est totalement invisible. Est-ce que c'est lié à la déception de ceux qui, à un moment ou un autre, ont poussé à la naissance de cet État, ou ceux qui ont cru à sa naissance et à sa justification, qui n'arrivent pas à utiliser les pressions nécessaires afin que les hommes politiques se retrouvent et dégagent un consensus de gouvernement? C'est possible, mais Le fait est que aujourd'hui, le haut commissaire est obligé de racler dans ses compartiments financiers afin de joindre les deux bouts et de réduire l'impact.
Qu'est-ce qui se passera si cet objectif, justement financier, n'est pas atteint? Quelles seront les conséquences sur les actions humanitaires?
Les conséquences sont énormes. Le programme alimentaire mondial a dû réduire en termes de rations ici et là. Je vous ai parlé de l'abri de toutes ces populations dans les pays tels que l'Ouganda, où il y a des endroits où il y a plus de réfugiés que de nationaux. L'eau, l'assainissement, les infrastructures de santé. Le drame, c'est que cette population est jeune. Si elle ne grandit pas dans de bonnes conditions, les conséquences sont énormes.
Arnaud Akodjenou, merci beaucoup.